Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quino.
On est avec Sarah Pitkowski, avec Cédric Evans, avec Simon Dutin ce matin. Les grandes gueules du sport qui continuent de s'écharper sur Paul Sexas pendant la coupure, je vous le dis. Est-ce qu'il a encore les moyens d'aller chercher le podium?
Oui.
Sur WhatsApp, il y a certains qui nous disent « Vous l'avez porté trop et tout ». Mais non, vous allez voir, vous allez voir. Aujourd'hui, on peut être surpris. Mais quoi, Sarah, pourquoi tu me regardes comme ça? Oui, on a trop fait, tu penses?
Je pense qu'on l'a...
Mais non. Les gars, s'il fait quatrième du tour, on n'en aura pas trop fait.
Mais non, mais t'as pas entendu ce qu'on voulait réellement dire.
Je pense qu'on en a fait beaucoup.
Je vais même vous dire,
s'il fait quatrième... Artificiellement, on a cru qu'il pouvait être le deuxième du tour.
Je vais même vous dire, s'il fait quatrième du tour, dans ce tour-là, on n'en aura même peut-être pas assez fait.
Exactement. Quatrième du tour, 19h, c'est monstrueux.
T'es d'accord, Simon?
Je suis tout à fait d'accord avec ça, Georges.
Merci.
Du tour, c'est absolument prodigieux. À 19 ans, il faut le rappeler quand même.
Donc, soit il y arrive aujourd'hui à tout renverser, c'est sensationnel.
Il va renverser la table aujourd'hui.
Ce sera énorme quand même. Donc, on en parlera demain. Évidemment, demain, on se posera la question, est-ce que son tour est réussi et tout ça, hein. Comptez sur nous. Ça n'est pas,
heureusement que je ne suis pas là demain.
On aura Marc Madiot demain, David Douillet, Simon Dutin, toute l'équipe de l'Intégral Tour. On va rigoler, je pense. Allez, dans un instant. On va accueillir une GG, Fred Weiss, qui n'était pas prévu, mais il se trouve que peut-être le meilleur joueur de tous les temps en basket, LeBron James. Attention, ceux qui sont fans de Michael Jordan vont le crier au sacrilège. LeBron James, à 41 ans, a pris sa dernière décision. Il va jouer pour une quatrième franchise différente pour aller essayer d'aller chercher un titre dans une quatrième franchise différente. Ce sera les Sixers de Philadelphie pour former une équipe galactique.
Qu'est-ce qu'il y connaît au basket, Fred Weiss? Je vois pas le rapport.
Bah écoute,
mais il est juste grand, c'est tout. Hein.
Tu diras ça tout à l'heure.
Hein. Non, mais il est que grand. Hein.
À part le fait qu'il aime bien. Ouais.
Est-ce le défi absolu pour LeBron James qui propose là? Tiens, on va en parler dans un instant. Venez les fous de sport et de basket. Vous retrouvez la première en podcast sur toutes les plateformes. En fin d'émission, participez au jeu avec nous. Vous choisissez votre équipe de GG. Remportez un séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Vous voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216. Sport au 73216. Mais d'abord sur le ring, tiens, ça fait un petit moment on n'a pas fait la Formule 1 après 10 Grands Prix avec la nouvelle réglementation. C'est toujours Mario Kart ou pas?
RMC, le ring des GG.
Here we go. Si on cherche du spectacle, bah Mario Kart, il y a des millions de gens qui jouent à ça tout le temps, ça les amuse beaucoup. Lewis Hamilton, septuple champion du monde et vainqueur pour Ferrari ici. Un grand prix qu'il avait déjà remporté, on le rappelle, en 2014, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021.
Il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Kimi Antonelli qui va triompher, quatrième victoire de rang, du coup, des moteurs de trottinette ou tondeuse à gazon. C'est plus qu'une réglementation, c'est un changement de mentalité de ce qui était un sport et qui est en train de devenir un produit et un spectacle.
Oh, qu'est-ce qu'il a envoyé comme punchline sur punchline, Jean-Luc Roy, notre voix de la Formule 1 que j'accueille déjà. Salut Jean-Luc.
Oui, et salut mon Georges, salut Sarah, salut Cédric et salut Simon.
Salut Jean-Luc.
Avec nous, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, elle nous a beaucoup divisé cette nouvelle réglementation en début de saison. Faut-il parler de dépassement ou de changement de position comme tu l'as défendu avec ces fameux boosts, l'impossibilité d'aller à fond dans certains virages pour récupérer de l'énergie. C'est le dernier Grand Prix en Hongrie ce week-end avant la pause estivale, qualification à 15h à vivre avec toi Jean-Luc sur RMC et ce sera l'occasion de faire un premier bilan après 10 courses dont 6 remportées par le pilote Mercedes Kimi Antonelli. Les GG, je vous pose cette question sur le ring. Est-ce que la nouvelle F1 a fini par vous séduire? Tiens, vous me dites rapidement oui ou non d'abord, Sarah?
Plutôt oui.
Plutôt oui. Cédric?
Complètement non.
Simon?
Oui.
Et Jean-Luc, oui ou non?
Pas du tout.
Allez, sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites... Non à 79% encore ce matin. Vous participez au 32-16 et vous envoyez évidemment vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Tiens Jean-Luc, avant de t'écouter, petit tour de table. Simon, pourquoi ta réponse?
Moi je suis un Formule X, je n'y comprends rien. Le règlement moteur en vigueur de cette année, ça me fait saigner du nez dès que j'essaye de bosser un peu pour l'émission. Donc c'est simplement que j'ai toujours le même plaisir, au départ d'une course, voilà, il y a toujours la même attente, les feux qui s'éteignent, le suspense qui dure un demi-tour ou un tour et demi, et puis voilà, ça me suffit. Non, j'ai envie de dire oui parce que alors qu'on s'attendait à ce que le jeune Antonelli rince tout le monde et gagne tous les grands prix d'affilée, fort de l'avantage concurrentiel que s'était offert Mercedes dans le développement de sa voiture, justement à la lumière de ce nouveau règlement.
C'est bon, pas forcément le cas.
Oui, j'ai vu un Hamilton gagner avec Ferrari, tout justement, les fans ou en tout cas les observateurs rêvaient de ça. J'ai vu un Russell reprendre un petit peu du poil de la bête et concurrencer son coéquipier.
Donc t'as vu des éléments qui t'ont fait apprécier
Leclerc a fini par gagner un Grand Prix, c'est quand même un peu près miraculeux.
Cédric lève les yeux au ciel
et on attend toujours le réveil du patron là qui grogne au fond de sa grotte et qui va évidemment finir un jour par s'énerver. Donc j'ai tendance à croire que deux écuries au coude à coude plus celles qui dominaient jusque là qui attendent en l'ombre, ça me donne envie de voir les grands prix suivants.
Moi j'étais enchanté au départ quand on le présentait, jeu d'arcade, Mario Bros, je me suis dit ça va être génial,
les dépassements dans tous les sens
ou les positions interchangeables, mais non, je me suis perdu, ça m'a pas donné envie de regarder la F1, trop complexe, j'ai pas été pris par l'émotion, par tous ces apports qui nuisent au pilotage.
T'es un peu descendu du train en fait.
Oui, je suis descendu du train.
Ouais. Et Sarah, toi,
Moi je dis plutôt oui parce qu'effectivement au début j'avais du mal à comprendre, un petit peu comme Simon, et puis ça m'intéresse à partir du moment où il n'y a pas une hégémonie d'un pilote. On les a déjà eu l'année dernière avec Norris et Piastri.
Il y a eu quand même embêté jusqu'à la fin par Verstappen.
Et cette année, c'est vrai qu'au début avec Antonelli, on s'est dit oh là, on repart. Et là, depuis Monaco, en fait, et je crois avec un petit ajustement de l'utilisation du moteur thermique et de ce fameux booster, on a vu un Lewis Hamilton revenir, un Charles Leclerc, Verstappen. En tout cas, maintenant, on a trois écuries, Mercedes, Ferrari et McLaren.
Donc toi, ça te plaît. Au fur et à mesure de la saison, ça finit par séduire un
petit
peu.
Plus l'oreille que finalement regarder le dimanche soir en disant c'est encore Antonelli qui est là et puis Russell sur la deuxième place.
Bon, alors Jean-Luc Roy, notre voix de la Formule 1, tu vois, ça me semblait important d'entendre un petit peu
ceux qui ne sont pas forcément
les spécialistes de la F1. Non, mais c'est vrai,
pour entendre,
voir aussi notre résultat sondage pour l'instant, vous êtes 79 à ne pas être séduit par la nouvelle F1 là, alors qu'on se rapproche de la trêve estivale après le Grand Prix de Hongrie. Toi, tu dis que tu es toujours pas convaincu, même pas du tout, Jean-Luc, même si là, on peut déjà faire un premier bilan.
Mais pas du tout. Écoute, je vais essayer de simplifier au maximum parce qu'effectivement, la Formule 1, c'est très technique et je comprends, quand on n'est pas spécialiste et pas forcément passionné, qu'on s'y perde. Mais le pire, c'est que les ingénieurs et les pilotes s'y perdent également. Le règlement est tellement complexe. Moi, ce qui me gêne énormément dans cette histoire-là, c'est qu'on a réduit la part du pilotage. On a réduit la part du pilote dans le résultat final. Alors, évidemment, Sarah vient de souligner que, bien sûr, on s'attendait à une écrasante domination de Mercedes, qui est quand même là, Sarah, globalement, même s'il y a eu...
Un peu moins, oui.
Non, mais il y a eu ces victoires Ferrari, mais ça, c'est grâce aux pilotes. C'est grâce aux pilotes.
C'est ça qu'on cherche, justement.
Il y a eu des incidents de course.
Oui, il y a eu 8 victoires sur 10 de Mercedes. Hein.
Ouais. Non, mais voilà, si je reviens dans l'analyse, si tu veux, et je sais que tu vas y être sensible, la victoire, par exemple, fantastique, d'Hamilton, enfin, chez Ferrari à Barcelone, elle est due à des problèmes techniques de Mercedes, tu le sais bien, puisqu'Antonelli a dû s'arrêter, il s'arsouillait d'ailleurs avec son équipier, sinon, c'était les deux Mercedes devant. Bon, ça, c'est le résultat, si tu veux, au mérite et en fonction du règlement. Et tant mieux, je ne blâme pas Mercedes d'avoir appréhendé ce règlement d'une manière plus efficace que les autres. La question n'est pas là, c'est pas là-dessus que je me base, moi. C'est simplement sur le fait que, malheureusement, pour moi, on a dénaturé ce sport que j'adore, c'est-à-dire qu'on a réduit la part des pilotes. Et ceux qui osent le dire, je répète toujours en préambule, il faut bien savoir que quand les pilotes s'engagent en Formule 1, ils signent obligatoirement une charte par laquelle ils s'engagent à ne pas critiquer la Formule 1, ce qui est quand même démentiel. Je sais pas si ça existe dans d'autres sports, ouais, mais en Formule 1, c'est comme ça.
Ça c'est la dictature d'être critique.
Voilà, c'est la dictature absolue. Mais je vais y revenir. Et c'est la même chose avec les écuries. C'est-à-dire que les pilotes s'engagent à ne jamais critiquer leur écurie. Bon, alors, quand on part comme ça, ben, il y en a qui osent, il s'appelle Verstappen, oui, qui dès le début et dès la saison dernière avait dit lors des simulations, oulala, où on va? Là, je ne sais pas où on va. Et on a évoqué évidemment, le mot de Mario Kart, parce que c'est un jeu. Ça veut dire que ça n'est plus un sport. C'est totalement artificiel. Et le problème, il est là. Le phénomène de yo-yo dont on parle tout le temps. C'est-à-dire que, en fonction de la recharge électrique, ou plus exactement, de la manière dont la batterie veut bien redonner l'énergie électrique qu'elle a emmagasinée. Parce que le problème, il est là. C'est que ça dépasse l'être humain. On l'a vu à Spa, par exemple, qui est le plus beau circuit du monde, selon tous les pilotes. Eh bien, malheureusement, on a vu que même Verstappen, avec l'aspiration d'Adjar, dans le troisième secteur, il n'allait pas aussi vite que la Mercedes d'Antonelli tout seul. Donc, c'est bien la preuve que ce sont des problèmes totalement artificiels. Et les ingénieurs n'y comprennent rien. Pourquoi cette année, un pilote comme Russell se plaint sans arrêt. Et Toto Wolff, on est d'accord, le patron de l'équipe Mercedes dit, bah oui, c'est pas de sa faute, mais on sait pas pourquoi. Même chose pour Piastri, ouais, vous vous rappelez, Piastri l'an dernier.
Donc, moi là où je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, et c'est ce que tu défends depuis le début de la saison, c'est qu'il faut quand même écouter les pilotes entre les lignes, ou parfois on comprend
surtout
quand même,
on
comprend quand même assez clairement. Moi j'avoue, je commençais un peu à me dire, bon, finalement c'est peut-être pas tellement n'importe quoi cette saison, on a été très dur en début d'année, mais quand j'entends par exemple à Silverstone, qui est le Grand Prix, l'un des circuits les plus mythiques, tu parlais de Spa, Silverstone en fait partie également, Jean-Luc, oui, où ils disent que sur les courbes ultra rapides, qui est un peu l'ADN de cette course, les mecs ne peuvent plus aller à fond. Je veux dire, en fait, on dénature les endroits.
Alonso.
On n'écoute pas les pilotes, c'est eux qui sont.
Alonso a même dit, mon cuisinier, il passerait aussi vite que moi, notamment à Suzuka, le fameux 130R. Le cuisinier du motorhome passerait aussi vite que moi, c'est quand même grave. Quoi.
Cédric, ça t'embête, ça?
Non, mais Jean-Luc a tout à fait résumé, on s'y perd, on comprend pas. Il y a la part aux pilotes, la part. C'est plus du sport. On est dans l'adaptation mécanique, technologique, même s'il en faut. Hein. Je veux pas dire n'importe quoi, mais redonnons du sens à ce sport en donnant beaucoup plus de liberté aux pilotes et à la technicité et au génie du pilotage.
Mais c'est pas ce qui est en train un petit peu se faire, Jean-Luc, c'est-à-dire la part de thermique est en train de baisser, et en fonction des années 2027 et 2028, ils sont en train d'un peu équilibrer ça, où il y aura effectivement un peu plus de part au pilotage et moins d'aspect sur l'utilisation du moteur thermique et la recharge.
Mais bien sûr, Sarah, mais c'est l'aveu criant d'un échec total. C'est-à-dire qu'on nous a survendu cette énergie électrique à 50% depuis quand même 2022, depuis l'accession au pouvoir de Mohamed Bin Sulayem, président de la FIA. Ça fait 4 ans qu'on nous bassine en nous disant « Ah, vous allez voir, ça va être absolument génial ». Et puis on se rend compte que c'est un tel désastre. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire de la Formule 1 la FIA rétro-pédaler comme elle le fait. C'est scandaleux. Ce que tu dis est vrai, mais c'est pour limiter les conséquences d'un règlement lamentable, honteux. Je veux dire, ça dénature ce sport.
Mais tu
et
comprends,
ça qui est
Jean-Luc,
grave.
Que la pression mondiale, la pression de l'environnement, la pression sur l'utilisation des moteurs aujourd'hui fait que la Formule 1 devait se modifier,
sûr,
devait
ça,
se révolutionner.
Tu peux pas dénaturer le sport avec un règlement qui enlève improvisation de pilotage,
Regarde, Oscar Piastri ce matin chez nos confrères de l'équipe qui dit aujourd'hui on ne gagne plus vraiment de temps simplement en étant plus courageux dans les grandes courbes rapides, il faut être surtout intelligent en fait. Bon, c'est un aveu déjà de faiblesse sur ce qu'est aujourd'hui la Formule 1.
Non, mais quelle intelligence, pilote?
En fait, gérer la technique, la technologie, en fait. La technologie.
Ouais, voilà. Entre les mains, t'as un volant et c'est du pilotage. Et si on redonne pas cet ADN à ce sport-là, et on peut s'y perdre.
Vous savez bien que ça reviendra pas. Enfin, on reviendra. La Formule 1 ne reviendra pas en arrière. On est bien d'accord.
Mais c'est pas vrai, Sarah, parce que le président lui-même s'est rendu compte que c'était un tel désastre qu'il a dit qu'on allait revenir au moteur V8 en 2031 et si possible en 2030. Donc, c'est ce que je voulais te répondre rapidement. Tu dis ah ben oui, on revient en arrière. Mais c'est bien la preuve c'est que c'est un échec cuisant. Mmh. C'est-à-dire qu'on a réduit le volume électrique que l'on peut charger précisément pour réduire l'importance de l'électrique. Et c'est un cataplasme sur une jambe de bois ce qu'on est en train de faire. Également en 2027 et 2028. Oui. C'est pour réduire les conséquences désastreuses d'un règlement débile. Tu vois un peu.
Après, tout sera jugé aussi en fin de saison.
Moi, je ne l'ai pas signé. Je ne signerai jamais.
En fait, tout va dépendre de sportivement où va nous mener cette saison. Et Simon, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si on arrive à touche-touche avec des Ferrari, en plus Ferrari, avec ce que représente Ferrari, ce que représente Hamilton dans 5 ou 6 Grands Prix encore, la réglementation, est-ce que finalement ce sera pas si important pour les auditeurs? Là, c'est 70% aujourd'hui qui disent non, mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines?
Donc ça réintroduit un petit peu de suspense dans la course au titre. Moi, encore une fois, ça me va et je comprends les arguments.
Tu te coupes peut-être d'une base, en fait, c'est ça le truc.
Voilà, mais peut-être que tu vas élargir aussi ta base auprès de gens qui, comme moi, sont un peu réfractaires à certains détails techniques. Je voulais simplement noter que je déduis de l'intervention du King qui n'a pas pratiqué Mario Kart, en tout cas Mario Kart. tu sais, quand tu te connectes à Internet et que tu joues en ligne, parce que sinon tu serais bien conscient qu'il s'agit non pas d'un jeu mais d'un véritable sport, mon cher Jean-Luc. Et la victoire est très difficile à obtenir et
je n'en doute pas.
Il faut des qualités de pilote hors pair. J'en sais quelque chose.
Je te pose une dernière question, Jean-Luc. Est-ce que le champion du monde à l'issue de cette saison sera inscrit au palmarès avec un petit astérisque à côté au vu de la folie de la réglementation?
Est-ce qu'il est bon sur Mario Kart?
Non, mais pour toi, dans ton histoire de la Formule 1, de ce que ça représente, évidemment, il n'est pas question de manquer de respect aux pilotes, hein, qu'on respecte tous, mais ça aura été une saison différente, très clairement.
Alors oui, mais pour autant, il faut pas réduire les mérites. Celui qui gagne sera le plus fort dans le cadre du règlement. Ça a toujours été le cas. Et des changements de règlement en Formule 1, il y en a eu sans arrêt. Mais aussi catastrophique que celui-là, jamais, je dis bien jamais, depuis 1950. Et puis un dernier argument que je voulais apporter, c'est qu'a priori, eh bien, ce qu'aiment les pilotes, c'est d'aller vite. Oui. Et j'ai fait une étude sur, je vous fais grâce des chiffres précis, mais sur 6 des grands prix depuis le début de la saison, sur les 10 déjà effectués, eh bien l'écart de temps au kilomètre, parce que c'est ça qui compte, au kilomètre de circuit, il varie entre 3 dixièmes et demi et 7 dixièmes, ce qui est colossal. Ça veut dire qu'on a ralenti les voitures dans des proportions invraisemblables, et ça, ce n'est jamais arrivé, malgré des pneumatiques plus tendres apportées par Pirelli pour tenter de compenser ce handicap. Donc, vous comprenez bien que les pilotes, ils sont vent debout contre tout ça.
Ouais, et là, qui a tellement ralenti qu'ils prennent 6 secondes au tour, hein, comme l'Aston Martin qui a complètement raté le virage de la nouvelle réglementation. Tiens, sur le compte X des grandes gueules du sport, le résultat du sondage, est-ce que la nouvelle F1 a fini par vous séduire? Jean-Luc, tes arguments ont fait mouche, puisque vous dites non à 80%. Voilà.
Jean-Luc, on a réussi à convaincre tout le monde.
Mais Jean-Luc sera quand même là parce qu'il adore les pilotes et la Formule 1 et son histoire. Et on sera là pour les qualifs aujourd'hui, évidemment cet après-midi sur RMC du Grand Prix de Hongrie. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. On se retrouve également demain. On va également parler. On va parler d'Isaac Hadjar notamment. On a beaucoup de choses à évoquer dans cette saison de Formule 1. Dans un instant, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de la NBA, National Basketball Association. C'est comme ça qu'on dit, c'est le sport, c'est le basket aux États-Unis avec LeBron James, la superstar qui a déclenché un séisme cette nuit. On en parle dans un instant avec Fred Weiss qui va nous rejoindre dans les GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Cédric Emmons. Qualification, je vous rappelle, du Grand Prix de Hongrie à 15h aujourd'hui. Et puis les fans de F1, abonnez-vous au podcast Paddock. Évidemment, il y aura un gros débrief lundi notamment avant la trêve estivale avec le King Jean-Luc Roy. Il sera là pour envoyer punchline sur punchline. On va en parler dans un instant des punchlines. Il y aura le j'y crois pas aussi à venir avec Didier Deschamps. Est-ce qu'il a raté sa sortie alors que Zidane est attendu sur le banc des Bleus dans 3 jours? Mais d'abord donc le basket. Avec un séisme, le mot n'est peut-être même pas assez fort en NBA. À 41 ans, la superstar LeBron James a choisi son dernier défi, partir jouer aux Sixers de Philadelphie pour former une équipe de Galactiques. C'est notre punchline du jour.
RMC, la punchline GG.
La punchline, je vais l'interpréter, les amis. Je suis LeBron James. Écoutez-moi bien. Voilà ce qu'il a dit après son choix de partir à Philadelphie. C'est ma dernière décision. Je veux toujours gagner. J'ai pensé que c'était terminé pour moi à l'issue de la saison. J'aime toujours autant ce jeu et j'ai encore à donner. Je crois que je peux faire des Sixers un prétendant au titre et je suis excité à l'idée de stimuler des fans, de nouveaux fans et d'entamer ce voyage une dernière fois. Alors LeBron, il veut gagner un titre NBA. Il l'avait fait en partant de Cleveland, son club de cœur, pour aller jouer avec des superstars au Miami Heat. Il avait gagné. Il a été revenu à Cleveland pour gagner chez lui. Il y était parvenu. Il était allé dans la franchise légendaire des Los Angeles de Lakers pour inscrire son nom là-bas aussi. Il a aussi gagné. Et son dernier grand défi, donc à 41 ans, s'appelle Philadelphie. Faire gagner cette franchise qui n'a rien gagné depuis 83. Fred Weiss nous rejoint. Salut Fred.
Salut, salut.
Salut Fred. Merci salut, d'être avec Fred. Nous Fred. Mais là, c'était suffisamment important pour qu'on t'appelle. Je vous pose la question d'abord les amis. Oui ou non, est-ce que tenter de gagner avec une quatrième équipe, est-ce que c'est un défi absolu? Simon Dutin.
Non, pas avec celle-ci. Non.
Ouais, Cédric.
Oui, pour l'histoire.
Sarah.
Bah, je vais être sur le non aussi.
Tu vas être sur le non. Ouais. Fred, oui ou non?
Oui, bien sûr.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Hein, c'est un événement hein, d'avoir un joueur comme ça. C'est comme si, je sais pas, on pourrait trouver une différence en foot. C'est comme si Messi avait... à Barcelone, il n'a pas gagné. Il part pour gagner à Manchester City. Il gagne. Il revient à Barcelone. Finalement, il gagne. Après, il décide d'aller au Bayern. Il gagne.
Il part au Real.
Et il décide d'aller à, je sais pas, à l'Inter.
Mais rassure-moi, il ne gagne pas tout seul. C'est parce qu'il y a une équipe autour qui se déplace et qui fait gagner.
Ouais. Fred,
de savoir quelle va être l'équipe et il signe.
T'es toujours excellent pour faire comprendre aussi à nos auditeurs qui sont pas forcément des connaisseurs de la NBA ce que ça représente. Mais pourquoi est-ce que pour toi que la superstar LeBron James, celui qu'on dit à touche-touche avec Michael Jordan dans la légende, pourquoi est-ce que le voir faire ça, c'est un défi absolu pour lui?
Ben c'est un défi absolu parce que c'est un vrai risque. Alors oui, bien sûr, l'équipe qu'il rejoint, c'est une équipe qui est fantastique, surtout avec sa présence. C'est une évidence parce qu'il y a des joueurs qui sont All-Star et des joueurs qui ont, comme Jaylen Brown, qui fait partie de cette équipe, qui a été dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison passée. Donc c'est quand même une équipe qui, sur le papier, est assez extraordinaire. Mais c'est quasiment un one-shot pour LeBron James. Et en fait, le problème avec LeBron James, c'est qu'il veut toujours être le mec historique, le personnage principal de sa propre histoire. Et en fait, il n'est pas le seul à avoir gagné 3 titres avec 3 équipes différentes. Alors 4 dans son cas, mais un titre avec 3 équipes différentes. Il y a 4 joueurs qui sont dans ce cas de figure. Lui, il va être le seul. Il veut avoir cette possibilité d'être le seul joueur de l'histoire à avoir gagné un titre avec 4 franchises différentes. Et de ce fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de fantastique. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait fait.
Et Fred, la semaine dernière, on faisait un j'y crois pas sur est-ce que tu penses que LeBron est capable de gagner encore un titre NBA à 41 ans. On n'avait pas Philadelphie hein, dans la liste des courses possibles pour son départ. Tiens, on salue le coq qui est derrière toi, la journée vient de se lever. Mais Fred,
c'est le repas de lui dire.
Est-ce que tu revois ta...
On n'est pas dimanche, c'est tous les frais.
C'est pour demain.
C'est pour demain. J'aimerais bien voir Fred, moi, attraper un... Tous les
à genoux, tu sais.
Fred, j'ai fait peur hein, au coq, j'ai pas besoin de l'attraper.
J'ai une tonne. J'ai une épuisette.
Fred, est-ce que tu crois à nouveau de le voir gagner un titre NBA à 41 ans? Il en aura 42 même la saison prochaine.
Très objectivement, on en avait déjà entendu parler hein, de Philadelphie, mais moi j'avais éludé, et la plupart des gens l'avaient éludé parce que. En fait, on a toujours l'impression qu'il y a un storytelling derrière LeBron James. C'est-à-dire que lui, il choisit par rapport à une histoire qu'il veut raconter. Donc, on se disait, revenir à Cleveland ou retourner à Miami, c'était un vrai storytelling. Et c'est vrai que c'est venu un petit peu de nulle part. Mais j'y crois un petit peu. Alors, oui, il y a plein de choses qui font douter un petit peu. Parce que dans son équipe, il y a Joel Embiid, qui est un joueur juste incroyable. Mais... qui est souvent blessé, qui a des problèmes de santé, etc. Donc oui, sur le papier, ils ont une équipe incroyable, peut-être le meilleur 5 majeur de la NBA, sauf que c'est plus compliqué que ça. Il faut gagner, il faut enchaîner les matchs, il y a quand même beaucoup de matchs. LeBron a 41 ans, c'est compliqué. J'y crois un peu, parce que c'est LeBron, parce que l'équipe est incroyable, parce qu'elle est surdimensionnée, parce qu'il n'y a pas que LeBron, pour paraphraser Sarah. Il y a d'autres joueurs autour qui sont de très bon niveau, d'un excellent niveau. Je l'ai dit, hein, c'est peut-être le meilleur 5 majeur de la NBA actuellement. Sauf qu'il faut la bonne santé, il faut la bonne cohésion. Mmh. Il y a le coach. Le coach est capable de le faire. Il a été champion NBA en 2019 avec les Toronto Raptors. Mais il faut une alchimie. Il faut trouver des solutions en interne pour savoir comment on partage le ballon, comment on joue, quel rôle réel pour LeBron James. Mais si, à ta question, est-ce qu'il peut gagner un titre? Potentiellement, oui, vraiment.
Ouais. Et toi, effectivement, et ça, c'est une nouveauté, Sarah.
Ben, en fait, il y a un petit décalage. Pourquoi j'ai dit non ? Parce que quand je lisais les interviews, LeBron James disait « je joue pas pour l'argent ». J'aime le basket.
Ah, parce que là, il a accepté un contrat, effectivement, au rabais pour pouvoir justement
mais
jouer dans cette équipe.
Mais non, mais on a quand même le sentiment qu'il continue pour marquer l'histoire. Ça me fait penser à un autre qui pousse un peu le bouchon. Non, c'est pas incompatible,
c'est ça,
mais ses choix, pourquoi il le dit pas clairement? En fait, ses choix, c'est pour marquer l'histoire. Ok, c'est le meilleur marqueur de l'histoire et aujourd'hui, il veut être le seul et l'unique à gagner la NBA, le titre de NBA avec quatre clubs différents.
En fait, il a pas besoin le dire pour qu'on le comprenne.
Oui, mais tu vois, mais dans ce cas, ça ressemble à un certain Djokovic, tu sais, qui continue, pas nécessairement parce qu'il aime le tennis, parce qu'il le veut son 25e titre. Donc en fait, mais pourquoi tu le dis pas une bonne fois pour toutes? Pourquoi tu le dis pas, je veux marquer l'histoire, donc je vais chercher la franchise.
Mais ces mecs-là, au début de leur carrière, ils le disent souvent qu'ils sont là pour leur héritage, pour leur legacy, comme ils le disent. Donc, en fait, c'est tellement leur logiciel que, en fait, ça va de soi.
C'est naturel. Tu
pour ça, Cédric, toi, sur le
choix. Moi, je pense que.
Toi, t'es pas forcément un fan NBA. Non, c'est une histoire que t'achètes.
Oui, j'achète complètement. Puis c'est un immense champion qui va chercher un dernier défi. Il va être le plus grand parmi les plus grands, même si pour moi, c'est Michael Jordan.
C'est une génération.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais il est capable, parce que tout au long de l'année où ça va être compliqué, où ses coéquipiers, comme nous a expliqué Fred, il peut y avoir des blessures, il va avoir ce moteur en lui pour aller chercher un quatrième titre dans un quatrième club. C'est monstrueux. Et je pense qu'il peut raconter une histoire que la NBA a besoin. Il va se nourrir de ça. Et j'y crois.
Et que le forum public a besoin. Voilà,
exactement.
Il a été sportif de haut niveau. C'est aussi ça que tu veux voir.
Derrière chaque, il faut une grosse histoire. Et je pense que là, on a une grosse histoire à raconter.
Simon.
Il sera pas tout seul. Mais j'ai envie d'y croire.
Toi, qui pour le coup est un fan de la NBA et de son histoire, attaché à son histoire aussi. Où est-ce que tu veux positionner ça? Où est-ce que tu veux mettre le curseur sur ce choix de LeBron?
Loin de moi l'idée de minimiser l'exploit que ce serait si LeBron remportait un quatrième titre. Moi, je pense que j'ai dit non parce que la question c'est est-ce que c'est le défi ultime? Et le défi ultime, ça aurait été, mais bon.
Et Cleveland.
Cleveland, même si.
Il a déjà fait Cleveland,
a un bien meilleur effectif que lorsque il a débuté en NBA, ça c'est incontestable. Oui. Et même lorsqu'il y est revenu pour gagner le titre, il y avait quand même un autre joueur dominant, Kyrie Irving, et il a été quand même très bien
entouré. J'ai répondu non.
Le défi ultime, c'est surtout d'aller en chercher un quatrième à 41 ans, à 42 ans qu'il aura au cours de la saison prochaine. Et surtout, voilà.
Il a déjà 4 titres,
cette longévité. Après, moi, je suis un petit peu sur la position de Charles Barkley, hein, un ancien grand joueur qui est désormais consultant et voilà, qui a souligné quand même que chaque fois qu'il a changé d'équipe, c'est pour aller dans une équipe stacked, comme dit Charles Barkley, à savoir qu'il est déjà bien fourni en effectif. Vous avez souligné, on a Joel Embiid qui a été MVP de la saison régulière.
Ouais, c'est un choix de facilité, tu veux dire?
C'est-à-dire qu'il n'est pas allé jouer chez les Sacramento
Kings. Mais il a 41 ans.
C'est là où j'allais en venir, c'est que en effet, ça n'aurait eu aucun sens à 41 ans d'aller dans une équipe.
Franchise qui a pas de chance
de
gagner.
Quand tu me demandes défi ultime, il faut rappeler que ça reste un joueur dominant et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à 41 ans, ça reste un des meilleurs joueurs de la NBA. On le prend pour un papy, mais il est encore ultra dominant et il va jouer avec des mecs qui sont déjà eux-mêmes dominants. Et Fred l'a rappelé, Jaylen Brown, qui a été l'un des transferts, le plus gros transfert de cet été, c'est un mec qui a déjà gagné le titre, qui avec a été MVP des finals. Donc c'est une super team et un petit peu comme un Kevin Durant qui était allé chez les Golden State Warriors de Stephen Curry
pour former une super team.
Bon, a priori il a choisi la meilleure équipe.
Tu peux pas lui reprocher ça
si Dieu ne veut pas.
Je le reproche pas. Signe au Stade Toulousain. Lui il veut un quatrième pied.
Tu sais quoi,
ici dans l'équipe où il a la plus de chance.
Avant que sans péril tu triomphes un petit peu en sans gloire, une demi-gloire.
Fred,
non. Messieurs dames, juste je suis d'accord avec Simon sur pas mal de choses, mais pas, je peux pas comparer Kevin Durant avec ce que vient de faire LeBron James quand même. Déjà, au niveau de l'âge, c'est pas du tout la même chose. Et en termes d'hégémonie, les Sixers ont fait des changements cette année, Mais avant ça, ils n'ont rien gagné depuis très longtemps. C'est, pas une équipe qui a été dominante. C'est pas une équipe qui venait de gagner. C'est pas une équipe qui était au sommet de la NBA quand tout s'est passé. Mmh. Effectivement, cette année, il y a eu des transferts qui permettent d'imaginer, et encore une fois, c'est que de l'imagination, que cette équipe va dominer la Conférence Est, et peut-être la NBA, mais au moins la Conférence Est. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve de ça. Mmh. Pour l'instant, c'est un assemblage de très grands joueurs, notamment sur le 5 majeur, même si certains des remplaçants sont intéressant, c'est principalement sur le 5 majeur, mais pour l'instant ce n'est qu'hypothétique. Il n'y a pas la domination que pouvait avoir Golden State quand Kevin Durant est arrivé. Ça, c'est complètement différent.
Non, mais après voilà, la question c'est qu'est-ce qui nous émeut le plus finalement. Est-ce que c'est Michael Jordan qui a fait toute sa carrière avec toute sa carrière parce qu'il a joué aux Wizards derrière, mais qui a fait les Chicago Bulls et c'est là-bas qu'il a gagné les 6 titres,
les deux.
Ou est-ce que c'est LeBron James qui a écrit une autre histoire effectivement en allant dans 4 franchises pour essayer de le faire. On a Seb au 32-16 qui nous appelle du Val-de-Marne. Salut Seb.
Salut les grandes gueules du sport, comment ça va?
Bah écoute, très bien, on parle NBA ce matin alors qu'on est en off-season. Est-ce que toi tu kiffes le choix de LeBron?
Ah mais magnifique. Alors j'ai pas été surpris, j'espérais, et c'est le dernier et le plus grand défi qu'il va devoir réaliser. Et rien que pour ça, ça le place parmi les plus grands. Voilà, c'est magnifique.
Et qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est quoi? C'est le fait qu'il il va quand même dans une franchise historique qui n'a pas gagné depuis très longtemps, les Sixers.
Alors pour moi, comment vous expliquer? Il part un petit peu de zéro en fait. Vous voyez, ça aurait été tellement facile de retourner à Miami, au soleil, d'aller à Cleveland, dire bon, j'ai gagné le titre, j'en ai cool douche, je finis mes années là. Là, il repart vraiment sur. Pour moi, il repart de zéro. Il repart de zéro. Il va refaire. Ils doivent se refaire avec l'équipe. Et c'est pour ça moi, je pense qu'il a signé 2 ans. C'est pour se refaire. Il se donne 2 ans pour faire une
deuxième année en option.
En option, mais il va la prendre. S'il gagne pas cette année, il va la prendre pour ça. Après, ça va être dur, hein, parce qu'à l'Ouest, c'est ça. C'est bien. Il a quitté l'Ouest. Comme ça, ça lui ouvre un petit peu plus la porte pour un titre. Le chemin est très, 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 très long. Mais moi, je suis un animal. Moi, je kiffe.
Ah, bah, là, c'est 84. C'est ce que vous avez dit. 84.
En apothéose.
T'imagines, il revient.
Les ventes de maillots, ça va se relancer, c'est cool pour tout le monde, c'est bien.
Bah voilà, tu peux avoir un maillot de LeBron James.
Il revient dans un club, plus de 30 ans après, il va leur amener le titre.
Mais non, c'est pour ça, en
la classe.
Il y a une histoire qui serait effectivement magnifique. Différente pour LeBron James. Et puis surtout, ça veut dire quelque chose, les amis. C'est que Victor Wembanyama ne pouvait pas affronter LeBron James en finale NBA.
Et là, il va
désormais, c'est possible, car ils ne sont plus dans la même conférence. T'as eu Fred, là, je viens de te vendre tout de suite du rêve.
Tu m'as vendu une finale rêve, déjà. Je la vois déjà.
Non, mais t'imagines,
elle est en face de moi, là.
Spurs, Sixers. Voilà, c'est ça. C'est l'élu d'une époque, peut-être face à l'héritier.
Question, le coq, il est passé où? À casserole? T'as fermé la fenêtre?
Je viens d'aller acheter du vin en même temps, et on fait ça tranquillement.
Voilà, évidemment, on respecte les animaux, dans cette émission.
Bien sûr.
Merci Fred d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Évidemment,
et regardez la NBA parce que ça va changer beaucoup de choses. Ça va être hyper intéressant la saison prochaine.
Mais Fred, tu sais que grâce à toi, on a de plus en plus de fans NBA avec nous sur RMC. C'est pour ça qu'on voulait aussi en parler parce que tu le fais de la meilleure des manières. Il y a même Pascal Duprat maintenant veille la nuit. Il dit mais tu te rends compte, il a fait un triple double.
Ouais, je sais pas ce que ça voulait dire un triple double. Il sait toujours pas, mais par contre, il est content de le voir maintenant.
Allez, merci Fred. Dans un instant, intéressez-vous également à un sport qu'il mérite, c'est le football, parce qu'il y a une star qui va arriver, c'est Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France dans 3 jours. Et on va se poser la question si Deschamps a réussi sa sortie, parce que la page n'est pas tournée un peu trop rapidement. Allez, venez en parler avec nous, et je remercie Seb qui a été avec nous et pour son enthousiasme au 32-16, un grand fan de NBA. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Dans un instant, dans le vestiaire, on va parler des relations entre les sportifs de haut niveau et les journalistes. Pourquoi se confier? Quand et comment? Tiens, on va se poser la question dans un instant, alors que certains sportifs s'enferment dans une bulle, notamment en ce moment, on va en parler tout à l'heure. Mais tout de suite, J-3 de la nomination de Zidane sur le banc des Bleus. D'ailleurs, ce sera à suivre sur RMC, avec la conférence de presse mardi à 11h. Journée spéciale, évidemment, avec Florent Moussy qui sera aux commandes. Didier Deschamps, lui. Est-ce que la page est déjà tournée? C'est le j'y crois, j'y crois pas.
Salut, c'est Didier Deschamps.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
J'ai décidé que ça devait s'arrêter.
Tu t'es ramené pour rien changer.
C'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France.
Comme dit Sylvain Verlaine, au vent mauvais.
Parce qu'il y avait un environnement qui était tellement irrespirable.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
L'équipe de France ne mérite pas ça.
Tu te souviens des jours anciens, les
tu pleures. Des instances d'explication, comment je l'explique? Après, il y a tellement de... Je fais en sorte de...
RMC, les grandes gueules du sport.
Et la dîme d'RMC.
J'y crois pas.
Il est invité quand il veut, Didier Deschamps, à la table des grandes gueules du sport. Mardi, on va donc définitivement passer à autre chose après 14 ans de mandat de Deschamps. Sa dernière sortie aura donc été ce match pour la 4e place du mondial, perdu 6-4 face à l'Angleterre il y a une semaine. Sa dernière sortie médiatique aura été pour décrire un environnement qu'il a qualifié d'irrespirable autour de lui. Dédé n'a pas voulu d'un hommage après son départ. Je vous pose une question d'abord. J'y crois pas. Est-ce que Deschamps a raté sa sortie?
Moi, Sarah, je suis sur le oui.
Ouais. Simon?
Oui, a priori oui.
Cédric?
C'est un oui, non, non, oui.
C'est un oui, oui, non, non, oui. On va faire le compte et regarder où est-ce qu'on se trouve. Tiens, sur WhatsApp, je vais lire quelques messages. Zolive qui me dit Deschamps a raté sa sortie, notamment la gestion de l'Espagne en est la preuve. Il n'a pas su changer le plan de jeu. Et puis on a beaucoup de messages et je pense que c'est là où vous risquez d'en venir. Sur la communication, notamment Ali qui me dit il a raté sa sortie, il peut s'en vouloir avec sa mauvaise communication après la défaite. Il ne nous a pas vraiment dit adieu et il ne s'est pas adressé au futur sélectionneur. Non, au moment de dire adieu, il n'a pas seulement adressé un message au futur sélectionneur. Sarah, toi,
oui, j'ai dit oui parce qu'en fait, c'est un mélange en fait. Effectivement, il y a le fait que sa situation a été irrespirable. On l'entend très bien, mais je pense que c'était pas le moment de le dire. Il a été exposé pendant 14 ans. Qu'il nous écrive un livre ou qu'il nous fasse une grande interview à un moment, mais c'était pas le moment de le dire là.
T'aurais voulu qu'il le dise plus tard, quoi.
Plus tard, ouais. En fait. Effectivement, de remercier, comme finalement Mbappé a fait en disant on se souviendra plus tard de ce que Didier Deschamps a apporté à cette équipe de France. Donc il y a ça. Le fait qu'il n'y ait pas d'hommage. Déjà, en France, on oublie vite. On oublie vite et je pense qu'il méritait, il aurait dû accepter cet hommage. Et le troisième, c'est ses choix tactiques face à l'Espagne.
Oui, qui toi encore, tu restes encore
c'est la dernière image. Enfin, même s'il y a eu l'Angleterre après, c'est ce qui a resté où il est resté.
Je suis d'accord avec Sarah.
C'est ce petit mélange là.
Je dis oui, 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 non.
Du coup, c'est vrai que c'est pas cohérent.
Oui. Le dernier match, on l'a pas reconnu sur le banc. Il était agacé. Ses choix tactiques, ses changements. On l'a vu énervé, stressé. Alors oui.
Alors toi, tu l'apprécies. Ah oui, mais oui. Respecte.
Oui, comme tout le monde, je pense, le respecte. Pour tout ce qu'il a fait, il aurait dû avoir un autre hommage, il aurait dû l'accepter. Elle est ratée à cause de ce dernier match, voilà. Uniquement, pas par ce qu'il a fait, et je suis d'accord, on verra plus tard, et on se rendra compte de ce qu'il a réussi d'ici quelques temps.
Peut-être que dans 10 ans, on lui fera une statue.
Non, mais en France, on oublie. C'est facile, on passe à autre chose, et on est hyper excité à l'arrivée de Zidane. Mais moi, c'est ce dernier match qui m'embête.
Non, mais c'est pour ça qu'on se pose la question, Cédric, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la semaine là est passée et que finalement, Saïd Deschamps, il a un petit peu déjà disparu de notre quotidien et on se disait en préparant l'émission, c'est pas un peu dommage quand même, et est-ce qu'il en est pas un peu responsable? Simon, toi, qu'est-ce que t'en penses sur la sortie ratée ou pas de Didier Deschamps avant de voir arriver Zidane dans 3 jours?
Elle est ratée parce que on a été éliminé, parce qu'il y a de la déception, parce qu'il y a ce non-match, en effet, qui, dans certaines proportions, rappeler 2012, ce match catastrophique déjà face à l'Espagne. On en attendait mieux parce qu'on s'était fait croire qu'on était quasiment imbattable, que c'était peut-être un moment historique où l'Espagne, qui était assise malgré le fait qu'elle avait plus gagné depuis 2010 au Mondial, quand même sur le trône du football mondial, était la référence. On avait envie de se dire que avec un autre logiciel, on pouvait la déloger. Donc, il y a eu la déception dans l'élimination, le résultat. Il y a eu la déception dans le contenu. Et en effet, il y a eu la déception dans les déclarations d'après-match.
Un peu maladroite.
Orientées vers l'arbitrage, orientées vers l'environnement. À la décharge de Deschamps, il faut quand même rappeler que ça fait quand même 8 ans maintenant que, alors qu'il finit en demi-finale de tous ces grands tournois, il faut encore se souvenir d'où on vient depuis 2012, et surtout d'où vient le football français depuis 40 ans. Je veux dire, on s'est habitué demi-finale.
Mais tu vois quoi, que par rapport à tout ça, il était quand même critiqué, tu veux dire?
Ça fait 8 ans qu'on se demande quand est-ce que Zidane va s'asseoir à sa place, alors que il nous emmène dans le dernier carré à chaque fois et qu'il nous offre une chance d'être soit champion d'Europe, soit champion du monde. Alors oui, j'entends les critiques sur le contenu, mais on parlait du Jürgen Klopp tout à l'heure. Enfin, je veux dire, ça fait, à part l'Espagne et le Brésil en 70, il y a quelques quel football de sélection nous a enchanté au niveau du jeu. Les résultats plus le jeu, ça n'existe pas. Je pense qu'il s'est un peu trompé et je pense que c'est légitime, c'est humain. Il a été gagné par l'émotion et je suis sûr que...
C'est pas facile hein, d'avoir la bonne sortie. La
non, il y avait la déception et il a un peu dérapé. Voilà.
PJ sur WhatsApp me dit vous avez été les anti-Deschamps pendant 2 ou 3 ans, vous l'avez descendu et maintenant vous dites ça. Alors on n'a pas été les anti-Deschamps, il est le sélectionneur et il est le sélectionneur de l'équipe de France qui est peut-être le poste sportif le plus exposé. Quand on dit à chaque fois qu'il y a 65 millions de sélectionneurs en France, il fait des choix, on les analyse, on les commente ensemble. Et vous-même au 32-16, vous avez été nombreux à être parfois très durs aussi avec Didier Deschamps hein. Et ici Pascal Duprat l'a beaucoup défendu, notamment. Martial me dit la page est peut-être tournée malheureusement aussi rapidement parce que Zidane qui lui succède, un énorme totem d'immunité pour l'instant.
Oui, c'est ce que je vous ai dit. On est excité, on est à la fois déçu mais hyper excité parce qu'il va arriver devant nous.
On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va récupérer.
Ah mais ça je suis d'accord par contre.
Mais genre tu disais que il peut avoir raté sa sortie notamment parce qu'il s'est pas adressé au futur sélectionneur, mais sincèrement je veux dire Zidane il
ça fait 8 ans qu'il entend parler du sélectionneur qui va s'asseoir.
Enfin je veux dire il a pas
et
il
peut-être
a pas
qu'il a appelé, ils ont fait ça dans la confidence et qu'ils se sont échangés les mots
ou pas
et quand bien même
mais peut-être qu'il avait vraiment lui Deschamps envie de tourner vite cette page, qu'il en avait marre.
Et puis attention, il faut aussi il a perdu sa maman pendant le mondial, émotionnellement il a dû surmonter quand même des choses qui n'était pas évidente et je pense qu'à la fin une forme de décompression qui doit être énorme en fait. Donc
dans le stress, l'émotion, l'urgence, il a répondu comme ça parce que peut-être qu'il voulait pas parler, parce qu'il voulait se protéger, il voulait tourner une page. Il faut se mettre aussi à sa place. Il sort en demi, tout le monde nous voyait champion du monde, on envoyait du jeu, on marquait des buts, c'était presque tout était facile, ça roulait. Et là, patatras, tu perds en demi, on fait qu'un non-match. Quand en plus tu regardes la finale qui est catastrophique,
tu dis
il y avait grave la place. Et en plus de ça,
il y avait grave la place. Moi, je suis pas sûr. Hein,
contre l'Argentine.
Et en plus de ça, tu rajoutes. Il y a le totem Zidane qui arrive et tout va-t'en et on attend de voir Zidane. Voilà.
Non mais bon, c'est vrai. Après voilà, sur votre expérience à tous, de toute façon il y a jamais de passation entre guillemets qui est limpide. Hein. Je pense que même dans le 15 de France, quand on passe d'un sélectionneur à un autre, c'est pas toujours. Ah bah tiens, on accueille à grands pas, à grands bras, les bras ouverts, Philippe Saint-André, après Marc Lévremont, voilà, ou même par le passé Laurent Blanc qui a pour Didier Deschamps derrière lui.
C'est la même chose.
C'est
pour
jamais
les clubs,
limpide. C'est jamais limpide, hein, de toute façon. Hein, donc c'est difficile. Et on voulait en parler évidemment et parler de vos messages parce que c'est un peu le sentiment qu'on sentait cette semaine avant de voir arriver Zinedine Zidane dans 3 jours sur le banc de l'équipe de France. Annonce mardi à 11h, conférence de presse. Ce sera à suivre évidemment sur RMC avec une journée spéciale évidemment parce que c'est un événement.
Mais, voilà.
C'est un événement.
Mais voilà.
Un événement.
On en fait un événement.
Ah bah on en fait un événement parce que c'en est un. C'est pas une
énorme construction. Non mais je suis d'accord. Mais c'est pour dire que dans la tête des gens, on veut tourner la page aussi.
Je pense que c'est du fait que ça soit Zidane.
C'est ce que je disais.
C'est Zizou quand même.
Mais moi je suis Zizou, excité
Patrick.
Oui
c'est Zizou.
Ah non mais moi j'attends son premier match au Stade de France. Si je dis pas de bêtises, ça sera un France-Italie, c'est ça hein.
C'est Zizou.
Allez,
on revient dans un instant sur RMC.
On va acheter les places.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.